Voilà, il y a quelque temps, il y a des invités entre-temps, j'avais commencé à prêcher sur Malachie, où je prononçais Malachie, voilà, parce que c'est plus près de l'hébreu. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc c'est très facile à trouver, juste avant les évangiles. Vous avez Malachie. Malachie, c'est un prophète qui a été suscité par Dieu. Et c'est la dernière fois que Dieu va s'adresser à son peuple, au peuple d'Israël, avant la venue de Jésus. Et il y a 400 ou 450 ans d'écart entre cette parole de Malachie et la venue de Jésus, qui d'ailleurs est précédée de Jean-Baptiste, qui est né avant Jésus. Donc c'est quelque chose d'important, ce livre, et de particulier. Un peu à la fois d'une sorte de. Alors je cherche le nom. Quelqu'un qui meurt avant qu'il meure, il écrit un testament. Voilà. C'est un peu comme une sorte de testament qui a été écrit par Dieu. Et après, il s'est tu. Dieu n'a plus parlé par les prophètes. Mais il annonçait quelque chose qui allait venir, 450 ans après. Oui, alors je parlais d'espérance. Ceux qui étaient dans cette période-là. Ils ont attendu, hein, 450 ans, il y a plusieurs générations qui ont passé pour attendre la venue du Messie. On dirait aujourd'hui les Juifs, ils attendent encore. Donc ça, on rajoute 2000 ans de plus. Voilà. Sauf qu'il y en a qui trouvent le Messie en Jésus. Mais pendant ces 450 ans, effectivement, il y avait un silence total de la part de Dieu. Il n'y a pas eu de prophète, il n'y a eu personne qui a parlé. Donc c'est assez particulier. Et cette particularité se manifeste dans le dernier verset de Malachie, le tout dernier verset, qui est donc mentionné, je crois que c'est le verset 23. Hein. Oui, c'est ça, je l'ai là. Malachie 3, 23. Et je vous le lis. En fait, c'est les deux derniers versets, je vais lire. Je vous enverrai les prophètes Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères vers leurs fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Mon message ne porte pas sur ces deux versets, mais je pourrais effectivement remplir pas mal de minutes à le commenter. Je voudrais juste vous mettre sur la voie de certaines choses. En particulier le prophète Élie, qui souvent apparaît, pas qu'une seule fois, déjà il apparaît la première fois en vrai, hein, le prophète Élie, vous connaissez avec le défi contre les Baals et les Astartés, il a restauré le culte d'Israël. Mais là, cette fois-ci, c'est Jean-Baptiste, enfin, il incarne Jean-Baptiste, hein, c'est Jésus qui. Mais il y aura aussi Élie à la fin, on attend le. Prochaine Élie, avant le retour de Jésus. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'il prépare, hein, il prépare le terrain, ce fameux prophète Élie, qui prend des noms différents. Donc c'est assez spécifique, hein, c'est quelque chose d'unique dans les Écritures. Qu'un prophète Élie, eh bien, ait plusieurs, je dirais, plusieurs vies, je dirais. Avant que le jour de l'Éternel arrive. C'est quoi ce jour de l'Éternel? Et oui, il y a parfois comme ça des mots, des phrases un peu énigmatiques qu'il faut chercher parce qu'elles portent un sens qui nous aide à comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de nous, et en particulier dans ces temps-ci. Le jour de l'Éternel, c'est donc ce jour qui allait venir avec Jésus. Et c'est quoi cette particularité de la venue de Jésus sur la terre. Il parle de ce jour de l'Éternel. J'aime bien l'interaction, donc je ne vous oblige pas à répondre, mais s'il y en a, il y en a qui spontanément veulent donner des réponses, je les prends au passage. À votre avis, c'est quoi ce jour de l'Éternel avant que le jour de l'Éternel n'arrive? Vous avez une idée? Non. Jour du jugement. Alors oui et non, oui et non. Je vais expliquer pourquoi, oui et non. Tout à fait, c'est la venue de Jésus, qui, effectivement, c'est pour ça que la réponse est vraie, le jugement, parce qu'en fait, il juge le péché, hein, sur la croix, puisque lui-même est pendu au bois et qui devient la malédiction, mais aussi la libération, hein, puisque après la croix, c'est la résurrection. Et en fait, c'est, pour résumer, le jour de l'Éternel, c'est la venue du royaume de Dieu. Oui. Parce que Jésus, pendant toute son existence sur terre, pendant les 3 ans de son ministère, il n'a parlé que du royaume de Dieu, en fait du règne de Dieu, le règne de Dieu. Le règne de Dieu vient, le règne de Dieu arrive, le règne de Dieu est au milieu de vous, le règne de Dieu est là. C'est pour ça que ces derniers temps, on parle beaucoup du royaume de Dieu, du règne de Dieu. Il y a tout un enseignement là-dessus, hein, parce qu'il y a beaucoup de façons de voir cela. Mais c'est la venue du règne. Ça veut dire quoi? Le règne n'était pas là avant? Hein, je vous coince un petit peu là. Pourquoi d'un seul coup le jour de l'Éternel, c'est la venue du royaume? Alors qu'en fait, le royaume de David et tout ça, vous voyez, on ne comprend plus beaucoup. Toute l'Israël était basée sur le royaume, non? Vous voyez, c'est... Donc moi, il faut parfois réfléchir. Et la Bible dit, il faut chercher. Et quand on cherche, on trouve. Voilà. On cherche dans la parole. Et c'est en cherchant, justement, qu'on approfondit la parole. Très bien.
Le diable a pris l'autorité sur la terre par le péché. Ouais. Et la victoire de Jésus sur la mort et sur le péché a manifesté à nouveau le royaume de Dieu.
Parfait, parfait. Très bonne réponse. Voyez-vous, le règne, on le chante sur tout l'univers, il règne partout. Mais sur la terre, il ne pouvait pas régner à cause du péché. Parce que l'être humain a péché. Depuis Adam, il a péché. Et il y a eu la malédiction du péché, des conséquences de la malédiction du péché. Alors certes, il a suscité un peuple, le peuple d'Israël. Mais c'était un peuple parmi tous les peuples du monde entier. Et là, c'est un peu prophétique. C'est-à-dire qu'il a suscité un royaume limité au peuple d'Israël, mais ce n'était pas le règne de Dieu sur la terre. Mais quand Jésus est venu, il a porté le règne, effectivement, du ciel sur la terre. C'est-à-dire que Dieu est venu sur la terre, et c'est Noël, hein, qu'on va bientôt fêter, le règne est venu parmi nous. Vous dites amen ? Le règne de Dieu est venu sur la terre des hommes. Et c'est dans ce règne que Dieu veut qu'on mette le pied, qu'on avance, qu'on, en tant que chrétien, on vive le règne de Dieu. Vous imaginez, on est tous chercheurs de Dieu, vous êtes d'accord ? Si vous êtes là, c'est parce que vous avez cherché Dieu. Non ? Vous n'êtes pas là par une religion. Parce que sinon, vous vous trompez d'église. Hein. Il y en a qui sont religieux, donc ils vont dans des églises religieuses. Bon, moi, je ne critique pas. Mais ici, on cherche à entrer en relation avec Dieu. Donc il faut chercher Dieu. Il faut chercher son règne. Il faut chercher à le laisser régner dans nos cœurs. On a chanté tout à l'heure, change nos cœurs, Seigneur. S'il ne peut pas régner dans nos cœurs, il ne peut pas régner sur terre, puisque nous, on est sur terre. Vous avez les pieds sur terre, là, ou vous êtes un esprit, non ? Voilà. Donc vous êtes sur la terre, et en recevant Jésus dans votre cœur, eh bien, vous faites régner Jésus sur la terre. Mais ça, c'est grâce au Saint-Esprit qui a été donné au moment de la résurrection, après la résurrection, la Pentecôte, pour que nous puissions porter le règne de Dieu dans nos vies. Et si vraiment on croit à ça, j'espère que vous y croyez, ça doit porter des fruits, non ? Est-ce qu'un chrétien qui est un chrétien qui ne porte pas de fruits est un chrétien ? De la question. Un chrétien qui ne porte pas des fruits du royaume, est-ce que c'est un chrétien pour vous ? C'est quoi ? Quelqu'un de religieux, qui croit au christianisme. Et vous ? Ce que je disais tout à l'heure. Il y a des églises, Voilà, et même des églises évangéliques, qui sont remplies de personnes religieuses. Ils croient en Dieu, ils croient à ceci. Vous savez, il y a quelques années, je connaissais une dame qui était responsable dans l'église réformée à Mantes. Puis je la rencontre sur le parking du Carrefour. Je dis, ah, ça va, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je dis, comment ça va? Elle dit, non, j'ai perdu la foi. Ok, j'ai dit, bon, c'est un scoop, parce que j'ai jamais entendu quelqu'un qui a perdu la foi. Comme moi, je perds les clés, vous voyez, j'ai perdu la foi. Bon. Bon, en tout cas, c'est pour ça qu'elle ne va plus à l'église. Donc, si vous voulez, si on peut perdre la foi, alors que c'est quelque chose que Dieu donne, c'est que vraiment, on ne cherche pas Dieu, parce que voilà, si la foi, c'est un objet comme ça de marchandage, tu as la foi, tu n'as pas la foi, tu reprends la foi, tu enlèves la foi, vous voyez, c'est pas ça. On a dit tout à l'heure que la foi est une vertu, ce qu'on appelle théologale, de Dieu. C'est une vertu qui appartient à Dieu. Donc si vous n'avez pas la foi, si vous n'avez pas l'espérance, si vous n'avez pas l'amour, vous n'avez pas Dieu. Parce que si vous avez Dieu, vous avez ça. Ça doit grandir. Hein. Je ne dis pas que c'est parfait. La foi peut être petite comme ça. Mais vous ne pouvez pas perdre la foi. Ce n'est pas possible. Enfin, théologiquement, c'est impossible. Ce n'est pas, c'est pas biblique. Donc, le règne de Dieu vient avec Jésus. Et c'est là qu'il vient sur toute la terre, c'est-à-dire dans toutes les nations. Alors, ce n'est pas uniquement Israël. C'est par Israël, le moyen, Jésus était juif, mais il est mort pour toute l'humanité. On dit tous ensemble, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que, dans lui, ne périsse point. » Éternel. Le monde, c'est toutes les nations, y compris Israël, mais c'est toutes les nations. Et c'est dans ce Dieu-là que nous croyons, et c'est dans ce règne-là que nous croyons, qui est venu sur terre au travers de Jésus. Et c'est ce jour de l'Éternel. Vous voyez, c'est un jour précis, enfin, c'est un événement précis. Même si ce n'est pas un jour, c'est toute la durée de la venue de Jésus jusqu'à ce qu'il reparte. C'est ce jour-là que le prophète Élie, eh bien, va incarner. Et qu'est-ce qu'il fera dans les fruits qui vont se manifester? Il ramènera le cœur des... et des... encore une fois. Il ramènera le cœur des... Ça veut dire quoi, ça? Vous pensez pas que c'est prophétique, ça? Allô? C'est prophétique de quoi? Oui, mais de qui avec qui? Prophétique. Pardon? Oui, alors qui était le Fils dans ce cas-là? Jésus. Qui était le Père dans ce cas-là? Le Père. C'est Dieu. Donc Dieu le Père se réconcilie avec Dieu le Fils. Pourquoi? Parce que à la croix, il l'a abandonné. Jésus a dit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et pourquoi Dieu l'a abandonné à ce moment-là? Parce que tout le péché de l'humanité était sur lui. Vous voyez, c'est prophétique là, je parle du prophétique. Père, Fils, Fils, Père. Et cette relation qui est très bien décrite dans Jean 17, hein, cette relation unique, incroyable, extraordinaire, entre le Père et le Fils, voyez-vous, il y en a qui critiquent le christianisme, le Père, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Ce n'est pas un Père comme nous, on a un Père physique. La notion du Père, c'est celui qui initie les choses. Qui initie, c'est l'initiateur, c'est pas un père avec une barbe, machin, etc. Ça renvoie à l'initiateur d'un plan. Le plan, c'est le plan de rédemption de l'humanité, qui a péché et qui est perdu, parce qu'elle a désobéi à la voix du Seigneur. Et le Fils, c'est celui qui répond au Père. Voyez-vous, c'est cette relation. Il répond, il accepte ce plan. Et pour Jésus, c'était très difficile, en tant que fils, un fils qui, où le Père lui dit, je vais te sacrifier. Hein? On a aussi un exemple prophétique, c'est Abraham. avec Isaac. Il est aussi prophétique de ce qui va arriver avec Jésus. Il dit, ben, je te demande d'aller sur le mont Morija et de sacrifier ton fils, son tourne unique, celui que tu as reçu alors que tu as 100 ans et que ta femme ne pouvait pas avoir d'enfant. Voyez-vous, c'est prophétique, tout ça c'est prophétique. C'est prophétique vers ce point du jour de l'Éternel où il se passe quelque chose d'unique dans toute l'humanité. En fait, ce jour de l'Éternel, c'est le centre de toute l'histoire. Si vous voulez, une histoire hein, qui a un début, une fin, parce que nous, on croit qu'il y a une fin sur cette terre, et qu'on va vivre la vie éternelle avec le Seigneur dans un nouveau corps, etc. Eh bien, ce serait le centre de l'histoire. Le jour de l'Éternel, c'est le centre de l'histoire. C'est là qu'il y a quelque chose qui s'est produit, qui a été prévu dans le cœur de Dieu, parce qu'il aime l'homme et la femme, il aime la créature qu'il a fait. Et il veut la sauver. Pour ça, Jésus est le sauveur. Donc cette relation père-fils, elle est prophétique d'une relation d'amour entre le père qui demande quelque chose à son fils et le fils qui obéit. Vous voyez, c'est une relation d'obéissance. D'obéissance, de soumission. Et du fruit qui sort, c'est l'amour. C'est un amour incroyable entre le père et le fils. Le fils et le père, et c'est cette relation qui devrait être dans toutes nos familles, père-fils, voyez. Alors pourquoi père-fils et pas mère-fille? Ben, simplement parce que la mère donne la naissance, et bon, c'est quelque chose que Dieu a fait pour qu'on puisse se reproduire, etc. Mais le père, il sépare le fils de la mère. Dans la religion juive, dans le culte, enfin dans les coutumes juives, c'est le père qui affirme son enfant, qui le sort à 13 ans, c'est la bar mitzvah, etc. Enfin, il y a tout un symbole que là. Et il l'amène dans la société, il l'amène avec ses pères, avec ses pères PIRS cette fois-ci, pour qu'il puisse vivre et qu'il puisse prolonger eh bien, la société dans laquelle on est. Voyez-vous. C'est-à-dire le père, il amène son fils vers la découverte de la société, vers les codes, vers les structures sociétales, de manière à ce que la vie puisse continuer de génération en génération, intergénérationnelle. C'est ça le rôle du père. C'est pour ça qu'on parle du Dieu père. C'est pas parce qu'il est père, mère, enfin tout ça, on n'est pas dans la sexualité là. On est dans le rôle qu'un père il a par rapport à son fils. Et le fils par rapport à son père, c'est-à-dire cet amour filial, cet amour. Et il est repris dans Éphésiens 5. Dans Éphésiens 5, à propos du mariage. Vous connaissez tous Éphésiens 5? On le cite pratiquement tout le temps lors des mariages. Non, ça ne vous dit rien? Pardon? Tu suivras le... Oui. Oui, oui, tout à fait. Alors, ça, c'est Genèse 2, 24, qui est repris hein, dans Éphésiens 5, où c'est l'alliance du mariage, qui est tu quitteras, tu t'attacheras et tu deviendras. Donc, c'est les trois éléments du mariage. Il faut que quelqu'un, un homme, une femme, quitte son ancienne solidarité pour pouvoir s'attacher à la nouvelle. Donc effectivement, il y a une rupture de solidarité pour recréer une nouvelle solidarité. Donc en fait, c'est pour ça qu'il faut respecter le mariage qui se fait dans nos familles, parce que le nouveau mariage est une nouvelle structure, avec les valeurs, etc., que font les deux conjoints ensemble. Donc quitter, s'attacher, devenir un. Mais qu'est-ce qui est dit encore dans Éphésiens 5 à propos du mariage? Voilà. Dans Éphésiens 5, il y a une comparaison du mariage avec Christ et l'Église. Et très souvent, ce n'est pas bien compris. Là aussi, on est dans le prophétique et dans le symbolique. Pour expliquer comment un homme, une femme doivent se comporter dans le mariage, eh bien, l'apôtre Paul prend l'exemple de Jésus, du Christ et de son Église. Et pourquoi? Et plus que ça, il va jusqu'au Père et au Fils. Voyez-vous, jusqu'à Dieu et à Christ. Et il parle de cette hiérarchie d'autorité. Que Dieu, il y a Dieu, Christ, l'homme, la femme. Voyez, cette hiérarchie. Cette hiérarchie, non pas de domination, une hiérarchie d'ordre. d'ordonnancement, ordonner les choses, les mettre dans le bon ordre. C'est une hiérarchie d'ordre. Et cette hiérarchie d'ordre commence par Dieu le Père et le Fils. C'est le Père qui initie, c'est le Fils qui répond. Et donc on a une relation d'amour. C'est Jean 3,16. Ensuite, Christ et l'Église, qui est une relation identique. Christ aime l'Église, il a donné sa vie pour l'Église en tant qu'épouse, en tant que corps, et l'Église doit répondre à cet amour. Et c'est pour ça qu'on est là, dans les cultes, on veut répondre à l'amour de Dieu. On est là par reconnaissance de ce qu'il a fait, voyez, en tant que corps. Et ensuite, après, dans l'individu, c'est pareil. Dans le mariage, c'est l'homme qui doit donner sa vie à sa femme. Il doit donner sa vie. Vous voyez, c'est pas rien avec le mariage chrétien. C'est que l'homme doit aller jusqu'à donner sa vie pour son épouse, comme Christ l'a fait. Exactement pareil. Par contre, la femme doit respecter son mari. C'est-à-dire, la soumission, c'est pas une soumission carpette, c'est simplement une soumission de reconnaissance pour développer un dialogue père-fils, qui est homme-femme, dans le mariage. Vous voyez, c'est la notion du dialogue. C'est la notion de bâtir ensemble une nouvelle communauté pour devenir, quitter, s'attacher, devenir. Le devenir, c'est lié à la qualité des relations qu'il y a dans le mariage. Pourquoi aujourd'hui l'homme moderne, si vous voulez, avec un grand H, rejette la religion chrétienne, entre autres? Parce que... Pardon ? Qui rejette, mais je vais le dire, c'était une question. Pourquoi, à votre avis, il y a ce rejet, enfin, il y a beaucoup de raisons, hein, je n'attends pas une réponse parfaite de votre part, mais il y a beaucoup de raisons pourquoi il est rejeté. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que c'est rejeté, on veut du transgenre, on veut du LGBT, on veut tout ça, etc. Donc c'est un rejet, on ne peut pas dire autrement, de tout ce que depuis 2000 ans, le christianisme a apporté. Et pourquoi, entre autres, ce rejet par rapport à ce que je viens d'évoquer, Éphésiens 5 ? Pardon ? Il ne respecte pas l'autorité de Dieu ? Alors ça, c'est la raison profonde, oui. Mais ce que je voudrais évoquer, c'est le témoignage des chrétiens. Est-ce que le témoignage des chrétiens était conforme à ce que je viens d'énoncer dans Éphésiens 5, qui est A ? Et en quoi n'est-il pas conforme ?
Parce qu'il n'y a pas la hiérarchie,
c'est pas ? Parce que tu as parlé de hiérarchie. Oui, non, vous êtes sur la bonne piste. Mais Philippe, tu n'as pas dit ta phrase, tu n'as pas fini ta phrase, non ? Quand tu dis non, c'est...
Quand je dis non, c'est qu'ils n'ont pas fait ce que Dieu... Ils n'ont pas appris aux autres ce que Dieu voulait.
Et dans quel domaine particulièrement ? Là, je vous fais réfléchir, mais je suis sûr que vous avez tous réfléchi à ça. Vous êtes tous dans ces interactions, même entre vous, dans vos couples, etc. Et dans la société, d'ailleurs. Hein. Bon, donc, je ne vous apprends rien. Simplement, je mets le doigt sur un problème de l'absence du bon témoignage du christianisme, donc des chrétiens, et qui, eux, sont la cause de ce rejet. Et nous, en tant que chrétiens, on est la cause du rejet parce qu'on ne porte pas les fruits que le mariage devrait porter. Je ne sais pas si je vous ai mis sur la piste ou pas. Pardon ? Tu as compris. Tu ne veux pas le dire, c'est ça ? Ben, je vais vous le dire. Le plus grand obstacle, c'est le machisme. Vous avez déjà entendu parler du machisme ? Allô ? Non ? Machisme. Moi, je suis le chef. Hein. C'est l'homme. Hein. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a vu, depuis mai 68, etc., le féminisme prendre son développement, MeToo, féminisme et tout ça. Voilà. Parce que les femmes se sentent complètement laminées par le patriarcat. C'est une autre façon de parler du machisme qui est un peu plus noble. Mais le résultat est pareil. C'est la soumission de la femme. Alors, vous savez, j'étais dans une rencontre où il y avait un professeur d'université à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'était une dame, qui, dès que je suis arrivé, et m'a agressé parce qu'elle venait d'un mariage catholique dans lequel elle était. Et le prêtre a prêché sur ce Éphésiens 5, quoi. Et j'en ai marre, je ne veux plus entendre ça, etc. La femme doit être soumise, etc. Alors, je dis, madame, vous avez lu les versets parce qu'il y a un verset qui précède le verset 26, je crois, c'est le verset 25. La femme doit être soumise. Et qu'est-ce qui est marqué dans ce verset qui précède? Vous le connaissez? Parce que la Bible n'a pas été écrite par verset, hein, c'est un moine qui a mis les versets. Donc c'est une phrase, hein. Donc la phrase précédente, la femme doit être soumise, c'est quoi? Pardon? Donc soyez soumis les uns aux autres. Virgule, exemple la femme. Mais c'est juste un exemple. Mais la soumission doit être intersoumission. Tout à l'heure, je parlais du Père et du Fils. Il y a une intersoumission. Dieu le Père a demandé à son Fils de se livrer, de livrer sa vie à la croix. Mais Jésus, par sa soumission au Père, il l'a fait, mais il n'était pas obligé. Il a même versé des grumeaux de sang pour arriver à le faire, tellement c'était dur. Il dit, Seigneur, si c'est possible que cette coupe s'éloigne. Mais il l'a fait. Et en retour, le Père a béni le Fils et l'a ressuscité. Vous voyez, on est dans un cercle vertueux. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des cercles vicieux, cercles vertueux. Cercle vicieux, on rentre dans la dépression. Dans le cercle vertueux, on rentre dans l'espérance. Et Jésus nous a apporté l'espérance. Parce qu'il est rentré dans un cercle où père et fils sont intersoumis parce qu'il y avait une fonction de rédemption que le fils devait faire. Mais parce qu'il s'est soumis, eh bien, il a permis cette chose extraordinaire de sauver l'humanité. Eh bien, c'est pareil dans le couple chrétien. Je suis désolé, je n'ai pas du tout prévu de parler de ça ce matin, mais je ne sais pas pourquoi. C'est bien poussé à en parler. Pardon ? Oui, mais là, j'improvise parce que ce n'est pas du tout ce que j'avais prévu. Mais je crois que c'est important parce que c'est vrai que c'est ce qu'on vit en ce moment. On rejette le patriarcat, qui est juste parce que la Bible n'enseigne pas le patriarcat. Elle enseigne l'intersoumission. Soyez soumis les uns aux autres. Et après, il fait un exemple, ma femme, soyez soumise, mais il commence par l'homme, en disant l'homme doit donner sa vie pour sa femme. Alors j'ai dit ça à cette dame, professeure d'université, qui dit, ah, mais je ne savais pas ça. Je dis, ah bon, le curé n'a pas peut-être pas abordé ça. Mais moi je vous le dis, prenez votre Bible là et lisez. Ah, j'ai l'impression qu'elle est tombée de l'armoire et qu'elle ne s'y remettait plus. Elle dit, ah, alors là, ça change. Parce qu'elle était honnête, hein. Mais les gens, ils ne sont pas honnêtes, bon, vous ne pouvez pas avancer avec eux. Mais là, elle était honnête. Elle dit, mais je ne savais pas. Je dis, mais c'est dans la Bible. Et les chrétiens, ils croient à la Bible. Donc, si la femme doit être soumise, ok, c'est peut-être un peu radical dit comme ça, mais c'est que l'homme doit d'abord sacrifier sa vie pour sa femme. Et quand quelqu'un sacrifie sa vie, imaginez que vous tombiez dans la mer, et puis il y a des requins en plus à Sydney, mon fils était là-bas. Cathy, elle n'a jamais mis les pieds, même ses doigts de pied dans l'eau. Hein. Bon, imaginez que vous tombiez dans l'eau, vous savez, il y a des requins. Et quelqu'un vient et vous sauve. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez être reconnaissant ou vous allez lui taper dessus? Vous allez être reconnaissant. Mais c'est ça, la relation homme-femme. C'est-à-dire que la femme est reconnaissante de ce que son mari donne sa vie. C'est par amour. Vous voyez, c'est ça l'amour. L'amour, c'est la relation père-fils qui tourne. Quelqu'un qui initie, l'autre qui répond, l'autre qui initie, qui répond. Et c'est comme ça que ça doit être dans un couple. Vous voyez, dans un couple chrétien, couple modèle, que le père et le fils sont initiés et qui est donné comme exemple dans Éphésiens 5, dans le mariage. Non ? Ça vous parle ? Ça vous donne envie ? Enfin, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, pour ceux qui sont mariés, ben, y a un travail à faire. Hein ? Parlons ? Tout le temps. Et de progresser là-dedans. Donc ça veut dire qu'il y a une grande écoute à voir l'homme par rapport à la femme. Donc vous voyez, on n'est pas du tout dans le patriarcat. Mais le patriarcat, c'est parce que l'homme, il est fort. Oh, il a reçu des muscles. Bon. Donc du coup, il tape. Voilà, il tape. Voilà. Sauf que, vous voyez, les machines que conduit Philippe en ce moment, même une femme pourrait les conduire. Hein, alors que tu développes des puissances phénoménales, des tonnes, tu déplaces des tonnes. Et c'est ça qui change aujourd'hui. C'est que les femmes peuvent conduire des engins qui font 3000 chevaux, c'est juste avec une pédale. Vous voyez. Ce qui fait que maintenant, l'homme, il est un petit peu nu là-dessus. Il n'a plus cette force, cette puissance. Quoi. Donc du coup, les choses se retournent. Mais ce n'est pas mieux le féminisme que le machisme. Parce que ce n'est pas l'ordre de Dieu. L'ordre de Dieu, c'est l'homme, la femme, mais avec une intersoumission totale, avec l'homme qui donne sa vie pour sa femme, et la femme en reconnaissance, eh bien, je ne dirais pas en admiration, mais en reconnaissance. Eh bien, elle le respecte, et les deux ensemble font cette paire qui est un cercle vertueux. Un cercle qui donne la vie, un cercle qui donne des bons fruits, un cercle qui construit, et que les enfants puissent suivre, etc. Vous me suivez ? Oui. Bon, je ferme la parenthèse parce que, voilà, on pourrait rester longtemps sur ce thème du mariage qui est décrit dans Éphésiens 4 en renvoi à Christ et son Église. Et nous, Christ n'est pas un machiste, hein. Christ a donné sa vie. Donc on est reconnaissant. Donc en tant qu'Église, en tant que corps, en tant qu'assemblée, eh bien on est reconnaissant. C'est pour ça que vous venez au culte dimanche et que vous respectez le repos du Seigneur. Je vais quand même lire la parole, parce que le temps passe, mais je voudrais lire la parole que j'ai prévu de vous lire, qui est celle de Malachie. En fait, il y a 6 discours dans Malachie. Si vous coupez les versets, il y a 6 discours. Ce n'est pas des chapitres, parce qu'il n'y a que 3 chapitres, mais il y a 6 discours. On a regardé le premier discours ensemble. Là, c'est le deuxième discours. Il commence au verset 6 du chapitre 1 et se termine au verset 9 du chapitre 2. On va juste le lire et du coup, je vais le commenter dans un autre culte. L'Éternel... Attendez. Un fils... honore son père, et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous, vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux, infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel, et mon nom est redoutable parmi les nations. Maintenant à vous cet ordre, sacrificateur. Si vous donnez gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui, avec Élie, était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Il y a eu pour moi de la crainte, et il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la connaissance ou la sagesse. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous, vous vous êtes écarté de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de vie et de paix de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. C'est dur, hein ? Ça, c'est le deuxième discours. Après, il y a un troisième discours. Il y a six discours dans ce dernier livre de Malachie. Et là, le Seigneur reproche à son peuple, quoi ? Que le culte, là on est dans un culte. Et ma prédication portait sur ce culte que je ne pourrais pas donner ce matin. Les cultes de l'époque et les cultes d'aujourd'hui, pour beaucoup d'églises chrétiennes, sont une abomination pour le Seigneur. Une abomination parce qu'ils ne sont pas conformes à ce que Dieu demande. Parce que dans les cultes, on fait, enfin eux, je reviens au texte, voyez-vous, ils apportaient des animaux, parce qu'à l'époque, il fallait apporter des animaux. Mais ils apportaient, vous savez, les animaux qui étaient en train de crever, là, ils les apportaient, ils pensaient que Dieu ne voyait pas. Vous voyez, Dieu voit tout, Dieu voit nos cœurs. Et le problème, c'est que souvent, quelqu'un qui est chrétien, au départ, il est tout feu, tout flamme. Il donnerait tout au Seigneur. Tout. Et au bout d'un certain temps, eh bien, la machine se grippe. Mais il continue à venir au culte. Il continue à faire des cultes. Mais le Seigneur, il voit le cœur. Et c'est ça le problème. Aujourd'hui, comme au temps de Malachie, eh bien, les cultes ne sont pas conformes à l'alliance qu'il a fait avec Lévi. C'est quoi cette alliance ? Il y a plusieurs alliances. Hein. Il y a l'alliance davidique, il y a l'alliance de Lévi. Lévi, c'est des sacrificateurs. Donc il en veut aux sacrificateurs, là. Hein. Très, très fort. Il a dit, Dieu leur jette même des excréments à la figure. Et c'est fort. Hein. On ne s'amuse pas avec Dieu, si vous voulez, c'est sérieux, quoi. Et il dit, parce qu'ils ne me craignent pas. Quand il n'y a pas la crainte de Dieu, eh bien, on se permet n'importe quoi. Et on pense que Dieu ne voit pas, mais Dieu voit tout. Vous êtes d'accord que Dieu voit tout ? Et donc, il faut rester honnête devant Dieu, il faut rester dans la vérité. L'alliance de paix est basée sur la vérité, être vrai, devant Dieu, devant les hommes, etc. Et c'est là qu'on peut être un témoignage, un témoignage chrétien, un témoignage dans le monde. Eh bien, là, il ne l'était plus, tant de Malachie, mais régulièrement, il n'était plus. Il fallait tout le temps revenir, restaurer, etc. Restaurer. Et là, c'est Jésus qui va restaurer en venant par le jour de l'Éternel qui amène le royaume de Dieu. Le Seigneur nous bénit de ce que le royaume est dans nos cœurs, dans nos vies. Mais est-ce que nous sommes conséquents et que nous sommes dans la crainte de Dieu ? Crainte respectueuse, pas la peur, mais que nous faisons ce que la parole de Dieu nous demande, c'est d'honorer son nom, glorifier son nom, d'être conséquent dans nos familles, dans nos relations maritales, conformément à la parole, pour être un témoignage. Pour être un témoignage. Et ça qui est important. Je me rappelle juste, pour terminer, l'histoire de mon fils, ceux qui connaissent Samuel et Cathy, ils étaient allés sur un plateau avec Alpha, sur, je ne sais pas, c'était TF1, je crois, enfin, une télévision publique, et ils avaient témoigné au niveau des couples, et ils ont dit, ils n'en revenaient pas. Ils ont dit, c'est pas possible. Un couple comme ça, ça existe encore? Vous croyez voyez-vous, ils arrivent même pas, les gens du monde n'arrivent même pas à croire qu'on peut vivre de manière conséquente la parole de Dieu. Tout le monde, dans les coulisses, ils sont nus, ils ont dit, mais c'est pas possible, vous êtes d'un autre âge, mais en plus, voilà, ils les admiraient, parce qu'ils ont témoigné sur le plateau avec une grande autorité, une grande affirmation, quoi. Hein. Voyez-vous, on doit interpeller le monde aujourd'hui par notre façon de vivre. Pas notre façon de parler, notre façon de vivre. Les fruits. Amen. D'ailleurs, la parole de Dieu dit aux femmes qu'il ferait mieux de se taire par rapport à des maris difficiles pour que leur témoignage parle. C'est le témoignage de foi, de vérité qui doit plus parler que les paroles. Les paroles doivent accompagner. On n'a pas besoin de se taire. Mais il faut d'abord que notre témoignage soit vrai et impacte les personnes. Et là, il y aura du fruit. Amen. Et là, il y aura de l'évangélisation. Là, il y aura de l'écoute. Ça ne veut pas dire que les gens se convertissent, mais ça veut dire que notre témoignage va porter ses fruits. Amen. Seigneur, te demandons que tu nous aides à ne pas être comme au temps de Malachie, où, Seigneur, tu avais en horreur les cultes qu'ils t'apportaient. Tu avais en horreur les sacrificateurs qui étaient de mèche avec le peuple pour passer ces animaux comme étant conformes alors qu'ils ne l'étaient pas. Seigneur, tu vois toutes ces corruptions qui ont lieu aussi aujourd'hui, Seigneur. Te demandons pardon et te demandons de nous aider en tant qu'Église à être conséquents dans notre façon d'être chrétien, dans notre façon de t'apporter un culte. Et que, Seigneur, dimanche après dimanche, eh bien, ces cultes puissent être de plus en plus authentiques. Et que les gens autour disent, regardez comme ils s'aiment. Non pas comme ils s'embrassent, mais comme ils s'aiment. Et l'amour, c'est cette relation père-fils, fils-père, de relation, d'échange, de vérité, qui et parlante, parce que Seigneur, tu as déjà parlé avec la rédemption, avec ce qui s'est passé entre Jésus et le Père. Et nous te remercions, Seigneur, pour cet exemple, ce modèle que tu nous demandes de suivre. Te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.